Euradio, en direct du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis.
Merci à tous d'écouter Euradio en direct du Parlement européen à Strasbourg. Je suis en compagnie de Fabienne Keller. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors Fabienne Keller, je le rappelle, vous êtes députée européenne française. Alors au niveau national, ancienne maire de cette même ville de Strasbourg jusqu'en 2008, puis sénatrice jusqu'en 2019. Et en parallèle, êtes vous-même devenue vice-présidente du parti Agir la droite, donc au niveau national en France. Enfin, depuis 2019, vous êtes donc députée européenne au sein du groupe Renew Europe. Dans le cadre donc de votre mandat de députée européenne, vous êtes notamment questrice, mais aussi, je pourrais aussi citer votre engagement en tant que membre de la commission LIB, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Alors cette semaine, donc, vous êtes ici, vous participez à la session plénière de ce Parlement européen, rassemblant donc, rappelons-le, les 705 députés européens et européennes des 27 États membres de l'Union européenne. Et pour le premier point de cette émission, commençons par un petit peu d'histoire. Cette session plénière était un petit peu particulière puisqu'on célèbre cette semaine les 70 ans du Parlement depuis la création en 1952 de l'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Les premiers ministres des trois pays aujourd'hui hôtes du Parlement européen, à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg, étaient aussi présents. Alexandre De Croo, pour la Belgique, Xavier Bettel pour le Luxembourg, ainsi que Elisabeth Borne pour la France. Donc une occasion de jeter un œil sur le passé. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a salué le fait, par exemple, que le Parlement européen a vu ses compétences élargies au fil du temps. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a lui insisté sur la fierté du chemin parcouru par cette Assemblée européenne. La Première ministre française Elisabeth Borne a elle parlé de passé mais aussi d'avenir, sans oublier de mettre l'accent sur l'importance de la ville de Strasbourg comme siège du Parlement européen. Et enfin le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel qui a lui salué la richesse de la diversité et des libertés individuelles qui sont protégées par l'Union européenne. Alors ma première question, vous Fabienne Keller, qu'est-ce que vous en avez retenu de cette commémoration? Quelle est votre impression dans ce moment photographie un peu sur ce Parlement européen?
Alors un sentiment d'un long chemin déjà accompli depuis le rêve des fondateurs dès 1952 avec cette première assemblée parlementaire et puis de l'ampleur du chemin qu'il reste à parcourir ensemble pour parfaire cette Europe, pour répondre aux défis climatiques, pour bien sûr terminer cette guerre et soutenir le peuple ukrainien dans cette guerre déclenchée par la Russie, mais aussi répondre aux grands défis d'économie liés aux migrations, liés au changement climatique. Donc un film a été présenté qui est d'ailleurs accessible directement sur le site du Parlement, présentant Robert Schuman, Simone Veil bien sûr. Moment de grande émotion et d'applaudissements dans l'hémicycle. Puis Jean-Paul II en 88, juste avant la chute du mur de Berlin et les mouvements populaires dans l'ensemble des pays de l'Est. Enfin, des étapes quand même extraordinaires. Kohl et la réunification allemande. Enfin, des étapes, que de chemin parcouru, mais qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire?
Un moment de commémoration donc, mais une semaine de plénière qui reste, vous l'avez dit, un synonyme aussi de défis actuels en Ukraine notamment, mais pas seulement. Des enjeux donc dont il faut s'occuper, des politiques à mettre en place, des solutions à mettre en œuvre, des résolutions à voter, puisque c'est le rôle premier du Parlement européen, à partir des propositions de la Commission européenne, de voter des lois, des résolutions pour l'Union européenne. Et justement, cette semaine, les eurodéputés doivent normalement voter le budget de l'Union européenne pour l'année 2023. Le budget de l'Union européenne, de son nom savant, donc c'est un cadre financier pluriannuel, autrement dit une enveloppe budgétaire votée pour une durée de 7 ans, ici donc pour la période 2021-2027. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Fabienne Keller, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu, c'est quoi les grandes étapes dans la négociation et le vote de ce budget pluriannuel? Et du coup, pourquoi revoter un budget chaque année?
Alors, parce que l'Europe, comme une famille, comme une ville, comme un pays, doit définir son budget. Donc l'Europe le fait simultanément de deux manières. Elle le fait sur 7 ans et elle le fait à l'intérieur de ce cadre fixé pour 7 ans chaque année. C'est ainsi que, en fait, en même temps que le plan de relance a été décidé, le cadre financier 21-27 que vous venez de citer, donc dans des circonstances très, très particulières où le budget européen a été augmenté par ce plan de relance et ses ressources propres affectées. Mais il fallait aussi fixer le cadre des politiques préexistantes. Donc l'exercice que nous avons fait depuis le début de l'année porte sur ce budget pour l'année prochaine, avec un certain nombre de règles. Budget général, c'est-à-dire les grandes politiques, la politique agricole, la politique Horizon Europe qui est l'aide à la recherche, le financement d'Erasmus, le financement des politiques de santé, des politiques de frontières. Puis il y a aussi des budgets spécifiques, ceux du Parlement européen, de la Cour des comptes, de la Cour de justice, d'un certain nombre d'organismes institutionnels européens qui sont rattachés. C'est une discussion assez technique.
Parce qu'au final, il faut négocier pour accorder une enveloppe à chacun de ces postes budgétaires.
Tout à fait.
Le montant n'est pas défini à l'avance, les catégories le sont, mais pas le montant.
Alors la Commission fait une proposition de montant dans chaque catégorie qui tient compte du cadrage qui a été décidé dans le cadre du programme financier pluriannuel, mais il y a des appréciations sur les dépenses qui seront indispensables. Actuellement, il y a par exemple un effort particulier à faire pour le fonds de la défense. Il faut le doter puisqu'il finance les livraisons d'armes à l'Ukraine qui sont faites notamment à partir de la Pologne. Il nous faut augmenter, si on veut un budget réaliste, les crédits pour l'aide, le soutien à la prise en charge des migrants. Les Ukrainiens sont très nombreux à être accueillis dans le reste de l'Europe. Donc il faut soutenir les collectivités locales, les citoyens qui les accueillent. Donc ce budget réaliste est proposé par la Commission, puis il est examiné séparément par le Parlement européen d'une part et par le Conseil, donc les ministres.
Qui représentent les États de l'Union européenne.
Exactement. Donc ce sont les ministres du budget qui, en général, le travaillent. Parfois le ministre des Finances, parfois c'est l'ambassadeur qui représente le ministre du budget. Et chacun définit une position, les gouvernements d'un côté, le Parlement. Puis nous nous rencontrons pour croiser nos analyses et ça donne lieu à des journées, à des nuits de négociations auxquelles j'ai pu participer cette année. C'est un processus très intéressant. Il y a beaucoup de sandwichs parce que les temps sont longs. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Il y a aussi des pratiques, des règles de respect réciproque. Tout cela nous a permis d'aboutir à la date limite qui était lundi le 14 novembre. Mais ça m'a valu aussi de passer une journée de travail à Bruxelles le vendredi 11 novembre, puisque les jours fériés nationaux ne sont pas pris en compte par l'Union européenne. Et c'est une victoire contre l'Allemagne, donc ça ne peut pas être un jour de congé européen. Donc nous avons une très très grosse journée de travail le 11 novembre.
Oui, ces cycles de négociations sont souvent l'occasion de blocages ou de tensions jusqu'au dernier moment, comme vous l'avez dit. Et finalement, c'est souvent présenté comme une victoire d'arriver à un accord dans les délais impartis. Alors si c'est si important de voter dans ce cadre pluriannuel un budget pour chaque année, vous l'avez dit, c'était aussi pour mieux s'adapter au fur et à mesure des défis qui se présentent aux Européens finalement. Alors on a parlé de l'Ukraine, on a parlé des migrants et réfugiés dont il faut s'occuper, mais il y a aussi donc les politiques plus traditionnelles, politique agricole, politique de cohésion, ou tout simplement comment lutter contre la vie chère en Europe. Cet accord sur lequel les eurodéputés doivent donc voter aujourd'hui, un accord sur le budget, le Conseil des États dont vous avez parlé a donné son accord aujourd'hui même. Donc on progresse, on est bientôt dans cette phase finale de mise en place. Finalement, c'est bon, c'est écrit noir sur blanc. Le budget 2023 de l'Union européenne sera, si tout va bien, adopté. Alors, devant autant de défis, justement, on a eu le Covid ces deux dernières années. On a la guerre en Ukraine depuis le début de l'année 2022. On a maintenant la crise énergétique qui nous frappe de plein fouet. Elle menaçait depuis quelques mois, quelques années. Mais ça y est, là, les Européens et Européennes vont vivre un hiver économiquement difficile et même socialement difficile. Comment faire face justement plus efficacement à autant de défis quand on n'a qu'un seul budget à voter?
Alors on fait comme les familles qui ont des revenus limités et beaucoup de souhaits, comme les États ou les collectivités territoriales qui ont cette contrainte aussi. On marque des priorités et ces choix, c'est une volonté politique. Volonté d'être aux côtés des Européens qui sont très pénalisés par l'augmentation du prix de l'énergie. Des fonds spéciaux ont été créés pour soutenir les États membres et les aider à financer les aides à l'atténuation des prix de l'énergie qu'ils ont mis en place. Puisqu'il y a toujours ce principe de subsidiarité quand il s'agit d'accompagner des politiques nationales, on essaye d'agir au plus près, donc de soutenir les États ou les collectivités qui mettent en œuvre des politiques. Soutien, comme je l'ai évoqué, à la guerre en Ukraine. Soutien des Ukrainiens pour qu'ils puissent résister face à Vladimir Poutine qui a déclenché cette guerre. Soutien aussi à nos industries, parce qu'une des grandes leçons du Covid, c'est que nous avons beaucoup désindustrialisé l'Europe. Donc il y a des programmes pour réindustrialiser, c'est-à-dire faciliter l'installation d'entreprises qui produisent, hein, on s'est rendu compte par exemple que les masques, on ne savait plus les produire, que les semi-conducteurs, on était entièrement dépendants d'importations asiatiques, que les médicaments avaient leurs principes actifs qui étaient tous produits en Asie. Donc il est stratégique et nous avons essayé de renforcer cette ligne, nous avons réussi à la renforcer pour que cette réindustrialisation soit possible. Alors bien sûr, pour certains, ce ne sera jamais assez, mais cela vient en renforcement de stratégies nationales. Et puis il y a quelques politiques qui sont aussi conduites à l'échelle européenne, comme les coopérations entre les organismes de recherche ou les programmes pour la jeunesse comme Erasmus.
Oui, parce que finalement, on négocie un budget, mais dans l'objectif finalement d'avoir des résultats concrets, de pouvoir déployer plus d'actions sur le terrain ou de résoudre plus rapidement certains problèmes.
Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment que les citoyens puissent bénéficier très rapidement de ces stratégies, qu'elles permettent de fédérer aussi des compétences et des énergies en Europe et en agissant en même temps dans les différents États membres, d'avoir ainsi un effet collectif qui nous permet d'avancer.
Donc nous sommes revenus ensemble sur comment finalement se bâtit au fil des négociations et au fil des coopérations entre Européens, ce budget européen pour l'année prochaine, pour 2023. Dans notre deuxième partie de notre émission, nous reviendrons plus précisément sur certains défis que nous allons tenter ensemble, Européens, de résoudre par le biais de ce budget et notamment, donc encore une fois, l'Ukraine, mais également d'autres politiques, notamment la politique environnementale. Nous reviendrons donc là-dessus en deuxième partie. Mais tout d'abord, on vous laisse donc écouter une courte pause musicale avec ce titre de l'artiste Naima Bok, Giant Palm. À tout de suite sur Euradio.
Radio, en direct du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis.
Et bienvenue encore à celles et ceux qui nous écoutent. Nous sommes toujours au Parlement européen à Strasbourg avec la députée européenne française Fabienne Keller. Rebonjour.
Bonjour, rebonjour.
Alors, dans la première partie de cette émission, donc, nous avons commencé à expliquer le vote de ce budget de l'Union européenne pour l'année 2023, vote qui aura lieu cette semaine, mais qui est le résultat d'un long processus de négociation à tous les niveaux, finalement, comme on l'a vu, tant au niveau des villes, des acteurs du territoire, des gouvernements nationaux et finalement des négociations européennes et internationales sur ces questions de budget, rythmées, bien sûr, comme on l'a vu, au rythme des crises qui se présentent à nous, qu'on le veuille ou non. Pour revenir sur l'une de ces crises, la crise ukrainienne dont on a déjà parlé un petit peu, pour aider l'Ukraine, il y a ce vote du budget 2023 cette semaine, mais il y a aussi un autre vote, puisque le vote du budget apparemment n'est même pas suffisant, il faut des instruments d'exception, des instruments d'urgence. C'est le vote d'un prêt de 18 milliards cette semaine qui doit être voté par les députés européens. Alors j'ai plusieurs questions concernant ce projet. Il a été proposé donc par la Commission, comme tous les projets de loi finalement en Europe, la Commission fait des propositions de résolution. Et puis le Conseil des États et le Parlement, chacun de leur côté, approuvent ou désapprouvent ces propositions, font des amendements et au final votent ces résolutions. C'est le fonctionnement démocratique des grandes institutions de l'Union européenne. Sur ce projet de prêt de 18 milliards d'euros proposé par la Commission pour venir en aide à l'Ukraine, la Commission a demandé aux eurodéputés de l'approuver dans le cadre de la procédure d'urgence, une procédure accélérée du Parlement européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste cette procédure accélérée?
Oui, elle est accélérée comme son nom l'indique, c'est-à-dire de manière très rapide. Ce point a été rajouté à l'ordre du jour de la plénière la plus proche, dès lors que l'ensemble des groupes modérés du Parlement européen étaient d'accord d'accorder cette aide, ce soutien à l'Ukraine. La mise en œuvre la plus rapide est la meilleure. Donc à la fois le Conseil, dès son... sa réunion suivante et le Parlement européen examine ce dossier. Cette procédure d'urgence est utilisée en lien avec l'actualité ou en lien avec une décision que les circonstances rendent urgente. Bien sûr, l'Ukraine, son économie est très fragilisée. Et c'est un pays qui a été très détruit. Donc, il y a de toute évidence des besoins financiers. Cela a fait l'objet de discussions entre la Commission européenne et un certain nombre d'élus également et l'État ukrainien. Et donc, cette somme a été convenue. Donc, il est évidemment important que le Parlement européen marque son soutien fort, comme chaque fois qu'il a été question d'Ukraine, en fait.
Alors, justement, ce prêt de 18 milliards d'euros qui est à la discussion cette semaine et au vote, sur quoi portent les débats, Fabienne Keller? Est-ce que c'est sur le montant lui-même qui reste à préciser? Est-ce que c'est sur les cibles, l'usage qu'aura ce financement ou...
Alors, nous le verrons, mais le principe même d'une décision d'une assemblée parlementaire, c'est qu'on se donne avant le vote, proprement dit, le temps d'échanger sur ce sujet. Je pense que le débat portera plus sur la situation géopolitique en Ukraine, la situation de la guerre au jour d'aujourd'hui, que sur des éléments plus techniques ou sur les montants. Parce que nul ne peut dire si ce montant sera suffisant ou non en fonction du moment où un arrêt de la guerre pourrait être convenu. Beaucoup craignent une guerre très prolongée. Peut-être que des montants complémentaires seront alors nécessaires. Mais c'est un cas un peu particulier finalement dans nos débats. Peut-être que certains Hongrois du parti Fidesz, qui est pro-russe, peut-être que certains membres RN français, pro-russes, prendront des positions curieuses, mais ce seront enfin pro-Russie, donc s'opposant à ce soutien, mais ce ne sera qu'une minorité, compte tenu des scrutins qu'on a pu et des débats qu'on a déjà eus au sujet de la guerre en Ukraine, ce ne sera pas dominant.
Beaucoup d'incertitudes, donc on reste dans le domaine du concret, du tangible, lorsqu'il s'agit de négocier ces montants finalement et ces outils à mettre en place pour résoudre les différentes crises auxquelles on fait face, puisque rappelons-le, la crise en Ukraine, c'est celle dont on parle le plus, mais elle est l'une des causes majeures de la crise énergétique à laquelle nous faisons face. Donc finalement, tous ces défis auxquels on fait face, tant économiques que géopolitiques ou même sociales, puisque finalement, qui dit hausse des coûts de l'énergie dit aussi difficulté à se chauffer ou à rentrer dans ses dépenses pour les citoyens et citoyennes européennes. Tout ça pour dire que ces crises sont finalement interconnectées les unes aux autres.
Donc, la seule source, c'est la guerre déclenchée par Vladimir Poutine.
Selon vous, c'est l'unique source?
Bien sûr, c'est la seule source. C'est cette agression à l'égard d'un État souverain, européen, membre du Conseil de l'Europe, certes, pas de l'Union européenne, mais c'est d'ailleurs ce qui a conduit à l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe. C'est une guerre déclenchée à nos portes.
Et donc maintenant, si on va dans le domaine plus de la spéculation, du proche avenir, de ce que l'on sait moins, vous avez commencé à le dire finalement sur les forces pro-russes ou anti-russes, même au sein des institutions européennes qui génèrent des débats finalement sur à quel point faut-il soutenir l'Ukraine, pendant combien de temps, on ne sait pas, vous l'avez dit, on ne sait pas combien de temps va durer la guerre, on ne sait pas combien de temps on devra soutenir l'Ukraine financièrement. Quel impact à tous ces nouveaux outils budgétaires ou ces outils d'extension budgétaire, quel impact cela peut-il avoir sur le reste des politiques européennes? On a aussi entendu parler sur un autre sujet, on a entendu parler de beaucoup de la COP27 en Égypte qui vient de se terminer, avec des nouveaux engagements pris, alors des engagements qui ont fait beaucoup de déçus, quelques notes d'espoir malgré tout, mais des engagements malgré tout, donc c'est-à-dire des nouveaux besoins de financement de la part des Européens, encore des efforts à fournir, quand on voit que d'un autre côté, il y a encore plus d'efforts à fournir pour la guerre en Ukraine. Quel impact?
Alors nous avons été extrêmement attentifs dans l'élaboration du budget 23 à ce que les politiques de développement durable liées à la transition indispensable dans l'industrie automobile pour s'organiser vers l'électrique, dans les transports pour soutenir les transports plus durables, plus respectueux, moins émetteurs de gaz à effet de serre, dans l'agriculture, dans ces grands domaines où un changement, une évolution du modèle est indispensable. Donc nous avons été extrêmement attentifs à maintenir ces crédits importants, mais nous avons aussi conscience que le cadre pluriannuel qu'on évoquait tout à l'heure est très contraignant et ainsi nous proposons, en tout cas mon groupe propose, de remettre à plat cette programmation pluriannuelle, comme c'est d'ailleurs l'habitude à mi-parcours, pour s'assurer que les objectifs principaux peuvent bien être atteints. Par ailleurs, il y a un effet mécanique de l'inflation sur ces montants. L'inflation étant d'ailleurs différente suivant les États membres, ce sera un des sujets dans le cadre de cette remise à plat des orientations pour les trois années qui resteront jusqu'à la fin de la programmation pluriannuelle. Mais le développement durable, plus encore depuis l'été très chaud que nous avons connu avec un certain nombre de catastrophes naturelles complètement inhabituelles, et c'est donc cette prise de conscience des conséquences tout à fait catastrophiques du réchauffement climatique, nous conduisent plus que jamais à être mobilisés sur ce sujet, sachant que le Parlement, dès son élection en 2019, a marqué l'environnement, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la protection de la biodiversité comme une grande priorité européenne.
Des questions de budget donc qui peuvent parfois être techniques, on l'a vu, et couvrir des domaines multiples, bien qu'au final elles nous touchent toutes et tous. Un sujet à suivre donc qui puisse même avoir des répercussions immenses, puisque vous venez nous dire que vous n'hésiterez pas à proposer même finalement de, non pas de revenir à zéro, mais presque finalement de repartir à zéro, en tout cas dans le processus de renégociation de ce budget pour qu'il colle toujours plus à la réalité. Parce que comme vous l'avez dit, finalement, 1 milliard d'euros il y a 5 ans ne vaut pas la même chose 1 milliard d'euros aujourd'hui à cause de l'inflation. Et cela a beau être des montants énormes, un État ne peut faire moins avec l'enveloppe qui lui a été donnée aujourd'hui que s'il avait eu cette enveloppe avant. En tout cas, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur et que nous continuerons à suivre avec attention. Moi, je vous remercie chaleureusement, Fabienne Keller, pour votre participation à cette émission et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, certes aride, qui est le budget, mais c'est le moment des choix, en fait, quand on doit... gérer une somme d'argent limitée, mais tout ça dans un esprit de soutenir la belle Europe, celle qui nous protège, celle qui assure à chaque citoyen une protection et un avenir aussi.
Tout à fait. Et des situations techniques, hein. On parlait de budget et d'argent, c'est toujours compliqué, mais finalement, c'est l'argent des Européennes et des Européens, finalement. Donc, ça a beau être technique, c'est un sujet qui... C'est notre sujet, puisque c'est notre argent dont il s'agit. En tout cas, encore un grand merci Fabienne Keller. C'est la fin de ce direct au Parlement européen à Strasbourg. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure pour un autre direct.